Go, go, la revue de presse JB.
Toute l'actu du jeu vidéo chaque matin dans tes oreilles. C'est pas sexy choucroute ça?
Y a pas mieux pour frétiller comme des petites truites.
Comme des petites truites. La revue de presse JB.
Maison de qualité depuis 2017. Et ouais.
Et ouais.
Et ouais.
Plus stimulant que ton café et meilleur pour la santé.
Hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de quoi ? Eh ben de jeux vidéo chaque matin. J'espère que vous allez bien. Allez, plus que deux jours et c'est le week-end, on s'accroche, on tient le coup. Ce matin, deux sujets que j'avais vraiment envie de vous amener directement dans votre petit casque. Deux sujets qui me paraissaient fort intéressants. Et donc ce matin, pas de news spécifiques, mais des sujets qui me paraissaient vraiment intéressants de traiter ce matin. Et sans plus tarder, eh ben attaquons tout de suite avec le premier sujet de la matinée. Allez, c'est parti. Berlin accueille la première expo sur la communauté LGBTQI+ dans les jeux vidéo. C'est glamourparis.com qui nous parle de cela et j'avais envie de vous parler de ce sujet puisque je trouve qu'on ne l'a pas assez vu passer sur les gros sites de jeux vidéo et le sujet me paraissait assez important donc pour le livrer à vos oreilles ce matin. Alors, est-il besoin de le rappeler ? Donc, LGBT, c'est pour lesbienne, gay, bi, trans. Les lettres Q, c'est pour queer. I, intersexe. Le signe plus visant à inclure toutes les personnes qui ne se reconnaissent dans aucune de ces lettres. Donc, la communauté LGBTQI+, et le jeu vidéo, c'est le thème, donc, d'une exposition berlinoise hébergée par le musée Schulz, une expo intitulée Rainbow Arcade. Le papier de Glamour Paris nous dit que cet événement a pour vocation d'inviter les visiteurs à se questionner sur la place de cette communauté dans le JV. Alors donc contre toute attente, on nous rappelle que les personnages appartenant à la communauté LGBTQI+, sont apparus dans les jeux grand public, par exemple avec le personnage de Birdo dans Super Mario USA, le Super Mario Bros. 2 occidental, qui est décrit dans le manuel du jeu comme un garçon qui, je cite, « se croit fille ». L'article nous dit donc que cette expo pensée pour les férus de jeux vidéo est née en 2016 dans l'esprit de la docteure Adrienne Chao. Cette dernière lançait alors le site dédié LGBTQ Video Game Archive, plateforme sur laquelle les joueurs ont pu contribuer et aider à identifier les jeux où apparaissait la communauté. Monsieur Schnorenberg, le directeur officiel de l'exposition et membre de ce musée, nous dit, je le cite, « Les fans sont capables de trouver une représentation là où ce n'est pas publiquement reconnu ou quand les développeurs n'ont pas réfléchi aux implications de ce qu'ils ont fait. » Le directeur prend par exemple, comme exemple justement, sur un autre papier traitant de cette expo, là c'est sur Combini, nous dit par exemple que l'artiste Androponos a rassemblé des captures d'écran de commentaires sur des forums dédiés à Metal Gear Solid discutant de l'homo-érotisme latent de la série. Alors des exemples comme ça, on peut en trouver moult et moult sur les internets. Mais je reviens d'appât aérien et svelte sur le papier de Glamour Paris qui nous dit que donc cette exposition est très didactique et découpée en 7 grandes thématiques, chacune de ces thématiques correspondant bien sûr à une des couleurs de l'arc-en-ciel. L'exposition se termine par un éclairage, donc ça c'est sur la couleur bleue, sur la discrimination dont sont victimes personnages mais aussi joueurs. Cette zone bleue, donc de la Rainbow Arcade, détaille avec différents exemples la discrimination et autres trolls en réaction à des personnages ou scénarios incluant une dimension queer. Et les détracteurs sont très nombreux. Le site Daily Geek Show rappelle à ce sujet qu'en 2006, Blizzard, inutile de vous représenter cet ogre dans l'univers du gaming, donc en 2006, Blizzard avait refusé la création d'une guilde LGBTQI+, initiée par un joueur dans World of Warcraft. La société, nous dit-on, avait fini par capituler et dorénavant, dans le jeu, chaque année, il y a une marche des fiertés. Donc la Rainbow Arcade, sous-titrée Queer Gaming History 1985-2018, donc c'est au musée Schulz à Berlin. Alors je ne sais pas si je prononce bien, c'est S-C-H-W-U-L-E-S. Moi je dis Schulz, bon, enfin je n'ai pas fait d'allemand à l'école, hein. Excusez-moi, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc ça c'est jusqu'au 13 mai 2019, sachant que ce musée est initialement dédié, bien sûr, à la communauté LGBT et qui propose une exposition permanente sur l'histoire des homosexuels. Et cette expo, c'est aussi l'occasion de découvrir des jeux peu connus, y compris par les historiens du jeu vidéo, puisqu'en allant faire un petit tour sur le site de The Guardian, qui parle également de ce sujet, j'ai appris par exemple que dans cette expo, on pouvait trouver des titres jouables, leurs créateurs également, donc c'est vraiment très très intéressant. Et comme titre jouable, on peut trouver notamment Keeper in the Castro, je n'en avais jamais entendu parler, c'est un jeu de la fin des années 80 sur Mac, dans lequel les joueurs jouent le rôle d'une détective lesbienne, Tracker McDyke, à la recherche de son amie drag queen, Tessie, la femme. Et donc je n'avais jamais entendu parler de ce jeu. Donc c'est vraiment tout un pan de l'histoire vidéoludique à découvrir. C'est une ode également à l'acceptation de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce sujet vraiment passionnant et trop peu relaté sur les sites JV. Donc si cela vous intéresse, je vous mets bien sûr dans la description de l'émission le lien de ce papier qui lui-même donne les liens sur les différents sites traitant du sujet, un sujet qui, je l'espère, vous a plu. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sujet, mais la DGSE s'intéresse fortement aux jeux vidéo multijoueurs, et donc le service de renseignement français veut même carrément écouter les échanges, hein, les chats entre les joueurs, les chats vocaux bien sûr. Alors ça c'est tombé avant-hier, mais avant-hier je préparais le 100% Japon, car vous le savez que le mercredi la revue de presse JV se met aux couleurs du Japon, et donc bah, hier c'était un programme purement nippon, et du coup voilà, ce sujet n'avait pas trop lieu d'être hier, donc c'est pour ça que je vous en parle ce matin, puisque ça m'a quand même assez interpellé, je dirais. Donc c'est sur Le Monde, hein, toujours dans l'excellente rubrique, hein, Pixels, qu'on apprend que donc le service de renseignement français s'intéresse, notamment à Fortnite, hein, mais pas que, PUBG, World of Warcraft, League of Legends ou encore Counter-Strike. L'idée, nous dit le papier du Monde, hein, n'est pas de pimenter bien évidemment les pauses déjeuner des espions français, mais c'est plutôt de pouvoir écouter les échanges entre joueurs dans les espaces de discussion internes à ce type de jeux vidéo. C'est ce qui ressort, nous dit-on, d'une offre de stage transmise parmi des dizaines d'autres à des écoles spécialisées par le ministère des Armées, comme c'est la tradition depuis quelques années. La DGSE veut recruter, pour 6 mois, un stagiaire pour dénicher d'éventuelles failles informatiques contenues dans ces jeux. L'existence de cette offre avait été évoquée par la lettre spécialisée Intelligence Online. Ces jeux vidéo multijoueurs, écrit le ministère des Armées dans l'offre de stage, sont, je cite, « détournés de leur utilisation première ». Les moyens de communication mis à disposition dans ces jeux sont utilisés de manière furtive afin d'échanger de l'information spécifique. Trois missions incomberont aux stagiaires, nous dit-on. Tout d'abord, effectuer une cartographie des principaux jeux multijoueurs et notamment identifier des failles informatiques déjà découvertes. Ensuite, il faudra sélectionner un ou deux jeux particulièrement intéressants pour le service et de l'étudier afin d'extraire des signatures réseau. C'est-à-dire, nous dit Le Monde, hein, des éléments techniques permettant à la DGSE de reconnaître, dans la masse de données dont elle dispose et qu'elle collecte sur Internet, les échanges effectués dans l'espace de discussion du ou des jeux en question. Enfin, le stagiaire devra tenter de découvrir des failles informatiques censées permettre à la DGSE d'accéder au contenu des discussions. Alors il est possible, nous dit l'article, que la DGSE soit déjà capable de pénétrer sur les canaux de discussion de certains jeux vidéo. Cette offre de stage pourrait seulement être destinée à attirer de jeunes candidats à fort potentiel technique. Le service de renseignement entend recruter 400 profils techniques, notamment dans les technologies numériques, en 2019. La DGSE multiplie les actions pour attirer les profils les plus pointus. Son directeur technique, Patrick Payou, était venu l'expliquer devant un parterre de spécialistes de la sécurité informatique réunis pour une conférence à Rennes, hein, c'était au printemps dernier. Il avait déclaré, je le cite, « J'ai besoin de vous, on a besoin de bras ». Et voilà, c'est déjà terminé, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès demain, peu avant 6h, et même bien avant 6h en réalité, c'est disponible sur tous les flux habituels, la revue de presse JV, est là pour vous accompagner la nuit, le matin, le midi, l'après-midi, la soirée, bref, quand vous voulez. Si vous avez manqué des sujets cette semaine, n'hésitez pas à remonter, hop, tout le fil du flux, hein, je pense que vous trouverez des sujets qui vous intéresseront. Un an point douté, comme disent les professionnels. Quant à moi donc, bah, je vous dis à demain, hein, panache et robustesse pour la journée. Vive le jeu vidéo, que dire de plus, si ce n'est gros béco, et à très très vite. Allez, bye bye.